Gloire au nom du Seigneur, on a-tu eu des bons chants matin qui nous ont amenés à penser que Jésus, il est là, dans le ciel, il a présenté son sacrifice, il a présenté tout ce que ça coûtait pour qu'on puisse s'approcher de lui, même la Sainte Seine. Le Seigneur a permis, il dit, faites ceci chaque fois que vous vous réunissez. Il veut qu'on se rappelle continuellement ses souffrances, sa mort sur la croix, son sang qui était versé. Puis il veut que quand on le prend, le pain puis le vin, il veut qu'on pense, c'est pour moi qu'il a versé son sang, c'est pour moi que son corps a été brisé. On est tous des participants de l'œuvre que Jésus a faite. Si on s'approche aujourd'hui, bon, 2000 ans après, on célèbre encore cette petite cérémonie-là que Jésus a instituée avec ses disciples, puis qui nous a dit, chaque fois que vous vous réunissez, prenez du pain, prenez du vin, puis rappelez-vous mes souffrances, puis mon sang, puis c'est pour vous. Puis Seigneur, dans le restant de la prêche, on va en parler un peu. Moi, je crois sincèrement que Dieu veut qu'on n'oublie jamais le sang de Jésus, que ça a coûté pour le... Puis qu'est-ce que ça nous a accordé? Parce que notre salut, notre foi est basée sur le sacrifice de Jésus. Si on dit qu'on est sauvé aujourd'hui, c'est à cause que Jésus a tout payé. C'est pas par nos performances, c'est pas parce qu'on est des meilleurs qu'avant. C'est parce qu'on est devenu des nouvelles créatures. Puis Jésus a payé le prix que ça coûtait pour qu'on le devienne. Ça nous a été donné par la foi. Merci Seigneur. Mais dans tout ça, dans cet appel-là, j'en ai parlé un peu mercredi dans mon étude. Du sujet, du thème de ce matin. Mardi, oui, c'est vrai, excusez-moi. C'est pas nécessairement qu'il faut que ça brise un punch. Il n'y a pas de punch. L'idée, c'est dans la Bible. Puis il faut se rappeler continuellement les choses qui sont écrites là, puis ça s'adresse pour chacun de nous. Il y a des promesses extraordinaires que Dieu veut nous révéler dans sa parole. Puis il y en a des paroles qui sont annoncées qui sont en même temps des promesses, mais en même temps, c'est une orientation. C'est une direction qu'il veut nous donner dans ça. Il veut nous dire, vous êtes rendu ce genre de personnage-là. Vous avez accès, vous avez obtenu, vous êtes rendu. Puis là, on peut partir avec ça, puis on a une nouvelle vision du plan que Dieu nous appelle chacun de nous. Amen.
Amen.
On va mettre cette réunion-là des mains du Seigneur, puis on va demander au Seigneur d'agir. Père Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on est rassemblés. On croit que tu es là. Déjà, dans la louange, on a goûté ta présence, ta douce paix, la joie que tu mets dans nos cœurs, puis même de nous fortifier spirituellement dans notre foi. Je te demande de continuer d'agir ce matin, Seigneur, par ta parole, parce que ta parole est une nourriture pour notre âme. Elle nous augmente notre foi, elle nous solidifie, puis on peut apprendre à bâtir notre vie là-dessus. Je te demande d'agir par ton Saint-Esprit maintenant, puis d'agir dans nos cœurs, dans notre intelligence, puis nous renouveler dans notre pensée pour qu'on comprenne ton plan, puis qu'on s'engage à te suivre, à te servir comme tu nous l'appelles, comme tu nous as appelés chacun de nous, dans le nom de Jésus. Alléluia! Gloire à notre Dieu! Le premier passage qu'on va aller voir, il y a plusieurs passages, Jésus a déjà dit, « Oh, c'est pas grave, allez pas chercher les versets. » Là, j'ai pensé à ça. Oui, allez chercher les versets. C'est important que votre foi soit basée pas sur mes discours que j'apporte, que votre foi soit basée sur les versets qui sont écrits dans la Bible. Parce que c'est ça la vérité.
Amen.
Ce qui est écrit là, ça ne change pas, ça demeure éternellement. Tout ce que je vous dis, vous pouvez l'oublier, mais n'oubliez pas les versets, par exemple, parce que ça, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui est notre guide, notre lumière, notre marche est basée là-dessus. Apocalypse 1, versets 3 à 6, ça va être le début du message. On va découvrir là-dedans quelle est notre nouvelle position en Jésus. Heureux celui qui lit.
Amen.
Êtes-vous content de lire ce matin? Vous allez lire la Bible, la parole de Dieu. Vous allez lire. Je vous dis pas de suite. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui garde les choses qui sont écrites. Oh, là, la révélation, c'est pas juste en lisant qu'on doit être heureux. C'est ceux qui comprennent aussi ce qu'ils lisent, puis ceux qui vont garder. Parce que des fois, tu peux être un auditeur oublieux, tu lis puis tu oublies tout. Là, ce matin, c'est pas ça qu'on veut. On veut comprendre ce que Jésus est en train de nous dire dans ces passages-là. Parce que le temps, il est proche. Là, l'introduction commence que c'est Jean qui écrit une lettre aux sept églises qui sont en Asie. Ça, c'est les sept églises qu'on voit, mais c'est pas là-dessus qu'on veut parler. Il dit, là, il y a des salutations. Il dit que la grâce, la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Là, on rentre dans le centre du message que je vais vous emmener ce matin. À celui qui nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. On a un chant qu'on chante exactement dans les mêmes paroles qui est écrit là. Puis ça, il faut pas oublier ce verset-là. Mais aucun verset de la Bible, faut les oublier, mais particulièrement, stimulons-nous à mémoriser ces versets-là. À celui qui nous aime, qui ça? Dieu, Jésus, Saint-Esprit. Dieu aime son peuple. Ce matin, êtes-vous capable de dire Dieu m'aime? Dieu m'aime! Dieu m'aime! Dieu m'a racheté! Il dit, il nous a délivrés de nos péchés par tes performances? Non, par son sang. C'est grâce au sang de Jésus que ce matin on peut dire Dieu m'aime. Avant, la colère de Dieu était sur chacun de nous. Parce que ceux qui ne croient pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur eux. Et maintenant, à cause qu'on a mis notre foi, la paix rétablie entre nous et Dieu, on a une nouvelle communion qui est commencée. Il nous aime. Il est content qu'on soit là. Il est content qu'on le serve. Il est content qu'on s'approche de lui avec confiance et assurance. Puis nous autres, on peut le dire, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, il a fait de nous un royaume. C'était pas un royaume, c'était pas le royaume du Canada ou le royaume des États-Unis ou les Royaumes-Unis. Le royaume qu'a fait avec nous autres, c'est le royaume des cieux qui s'est approché vers les gens. C'est nous autres le royaume des cieux. On était du royaume terrestre avant, mais maintenant on est racheté et on était transporté du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière en son Fils Jésus-Christ. Maintenant, on fait partie de ce nouveau royaume-là, le royaume de Dieu. Il dit, il a fait de nous un royaume, puis il a fait de nous des sacrificateurs. Wow! Ça, là, on est en train de tomber dans une révélation, parce que c'était pas écrit comme expliqué, comme une nouvelle manière à expliquer que les chrétiens sont des sacrificateurs dans les Épîtres, où Jésus lui-même n'a pas parlé, puis les Épîtres non plus, mais dans l'Apocalypse, ça nous a été donné comme révélation qu'on est maintenant un royaume de sacrificateurs. Ça existait déjà des sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance, dans le temps de la loi. Puis il y a tout un procédé qui avait été mis là en place par Dieu. Là, il dit maintenant, en Jésus, on est rendu un nouveau royaume qui n'a pas rapport avec l'ancien, puis il nous déclare qu'on est, nous aussi, des sacrificateurs. Puis quand tu compares ce qu'on est rendu en Jésus présentement, qu'est-ce qui se passait dans l'Ancien Testament au niveau des sacrificateurs, il y a des grandes similitudes, il y a des grandes choses qui sont semblables, des grands points. Puis on va voir certains de ces points-là, puis on va voir qu'est-ce qui peuvent en retomber un petit peu de ça. Premièrement, la chose qu'on doit savoir, dans l'Ancien Testament, quand tu pouvais devenir un sacrificateur, c'était pas n'importe qui devenait sacrificateur. Il y avait une seule lignée de personnes qui pouvaient devenir sacrificateurs. L'appel de Dieu dans l'Ancien Testament s'adressait à Aaron et à ses descendants. Ses descendants, c'est ses fils. Fait que de père en fils, de génération en génération, les sacrificateurs était appelé dans la famille de Aaron. C'était pas disponible à personne d'autre. Personne d'autre pouvait devenir un sacrificateur. Il y avait une tribu qui était les Lévites. Les Lévites, eux autres, c'est une tribu qui était la tribu de Lévi, une des 12 tribus d'Israël. Eux autres, ils étaient dans le temple quand même, mais pour servir, faire des tâches, faire des fonctions, allumer les lumières. Ben, c'était pas des lumières, c'était des chandelles. Il faisait le ménage, puis il faisait, tu sais, il devait entretenir le feu, je sais pas, il y a plusieurs jobs, chacun avait ses jobs en tant que lévite, il était au service de Dieu dans le temple, puis dans, au niveau des humains, dans certaines fonctions, mais la fonction de sacrificateur, c'est une classe spéciale, que des gens spéciaux ont eu un appel spécial d'être un intermédiaire entre les humains et Dieu. Les gens allaient voir le sacrificateur, puis ils allaient confesser leur faute en présentant une offrande, puis le sang devait être versé, puis ainsi de suite. Mais ça, je vais en revenir là-dessus. Dans Exode 28.1, ça nous démontre l'appel de Dieu au niveau des sacrificateurs. C'est un appel spécifique dans l'Ancien, pour une famille spécialement. C'est dans Exode 28.1 qu'on voit ça. Ça dit, « Fais approcher de toi Aaron. » Ceux qui ne savent pas, Aaron, c'était le frère de Moïse. Moïse, c'était celui qui avait été choisi de Dieu pour aller libérer le peuple d'Égypte. Puis Dieu, Moïse, il a dit, « Ben moi, je ne suis pas capable de parler au monde, j'ai une langue liée. » Là, il se donnait des excuses pour y aller tout seul. Il dit, « Fais-toi-en pas, ton frère s'en vient, puis c'est lui qui va parler à ta place. » Toi, tu vas être celui qui a les révélations, puis ton frère va être celui qui va prononcer les mots. Dieu, il avait envoyé un partner à Aaron, à Moïse, c'est Aaron son frère. Il était un petit peu plus vieux. Parce que dans l'histoire, tu vois que dans le temps de Moïse, ils ont tout fait tuer les enfants qui étaient dans cet âge-là. Moïse, il était réchappé. Mais tu vois que Moïse avait des frères et sœurs. Ça veut dire que c'était pas tous les enfants qui ont été tués. Mais dans cette période-là, il tuait des enfants. Moïse était épargné, mais il y avait d'autres enfants dans la famille. Fait que c'est un de ses frères qui est devenu son bras droit à Moïse, dans un sens, qui était son porte-parole. Là, il dit, fais approcher de toi Aaron, ton frère, ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service. Là, il y a un appel précis à Aaron et ses enfants. Ceux-là, venez ici, je vous consacre à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar, Ithamar, les noms, quatre noms, c'est des gens qui ont été choisis. Dans la Nouvelle Alliance, qu'on est présentement, l'appel est différent. Dans l'Ancien, c'était rien qu'une famille qui avait le droit de le devenir. Aujourd'hui, le Saint-Esprit puis l'Église travaillent à appeler et à rassembler les autres sacrificateurs. Apocalypse 22, qu'on voit ça au verset 17. On voit que l'appel s'étend à plus de monde qu'avant. Avant, c'était un appel particulier à une famille spécifique, puis aujourd'hui, l'appel est à tout le monde. L'Esprit, ça commence au verset 17, Apocalypse 22, « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens, que celui qui entend dise, viens, que celui qui a soif, vienne, celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Il y a un appel que le Saint-Esprit et l'Épouse disent présentement aux gens du dehors, « Viens. » C'est qui l'Épouse? C'est nous. On n'est pas encore effectivement mariés ou la noce n'a pas encore eu lieu, mais un jour, on va avoir lieu la noce. On est comme des fiancés qui se préparent pour se marier. Mais quand il dit l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », c'est qu'on travaille à l'unisson avec le Saint-Esprit pour attirer les gens à rentrer dans ce nouveau royaume-là qui a été formé grâce à Jésus. L'appel de la bonne nouvelle s'étend sur tous ceux qui nous entourent. L'acte 2.39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Voyez-vous, même pour être sacrificateur dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau, ça prenait un appel. Il fallait que Dieu dise « Viens ». La seule différence entre les deux, c'est que dans ce temps-là, ça s'adressait à juste une famille qui était les élus, mais aujourd'hui, tout le monde qui nous entoure sont appelés par Dieu à rentrer dans le royaume puis devenir un sacrificateur. Dieu a déterminé la procédure pour l'engagement. Puis la consécration pour le service. C'est Dieu qui a décidé comment est-ce qu'une personne qui se sent appelée ou qui est appelée par Dieu, c'est Dieu qui a décidé quelle est la procédure pour que tu deviennes un sacrificateur. C'est pas « je décide d'être un sacrificateur » puis il décide sur des bases qui sont pas les celles de Dieu. Il peut pas être un sacrificateur. On va voir, il y a des similitudes avec l'Ancien Testament. Dieu nous parlait par l'Ancien Testament. Dans l'Ancien, il y avait une initiation par trois éléments pour entrer dans le service. Premièrement, dans Exode 30-30, ça c'est pas 30-30 Winchester, Exode 30-30, Dieu parle d'une méthode précise à Moïse, puis il dit, c'est comme ça que tu dois consacrer les personnes pour qu'ils rentrent dans mon service. Il a dit, tu oindras Aaron et ses fils, tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Là, on voit deux choses dans celle-là. Il fallait qu'ils soient oints et sanctifiés. Comment est-ce que ça s'est procédé? Lévitique 8, verset 12. Là, on va voir qu'est-ce que Moïse a fait pour accomplir exactement comme Dieu lui a demandé pour consacrer Aaron, il y avait une ses fils, il y avait une procédure. Lévitique 8, 12. Ça c'est en parlant d'Aaron, il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de la sanctifier. Il a sanctifié la tête. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron, il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceinture, il leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On voit que c'est pas Moïse qui a décidé de faire ça comme ça, c'est Dieu qui a dit, tu vas faire ça de même. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire, puis Moïse l'égorgea. Il prit du sang, il en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel et tout autour, il purifia l'autel, il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. On voit là-dedans qu'il y a trois choses précises que Dieu avait ordonnées. Premièrement, une sanctification par l'huile d'onction. Deuxièmement, il y a un revêtement de tunique spécialement conçu exprès pour Aaron et ses descendants, et ils devaient mettre ce tunique-là lors de leur consécration comme sacrificateurs. Et la troisième chose, ils ont pris du sang, puis ils ont offert le sang pour présenter, pour le pardon de leurs péchés, ils ont présenté le sang à l'autel afin que, par ces trois choses-là, l'onction d'huile, le revêtement de la tunique, et le sang qui était versé pour pardonner les péchés, c'était la méthode que Dieu a ordonnée à Moïse, de procéder de cette façon-là pour consacrer dans le service Aaron et ses descendants qui étaient les appelés. Autrement dit, ils étaient appelés, Dieu avait déjà déclaré, mais pour que ce soit complètement accompli ou que fallait qu'un rituel soit accompli, puis ce rituel-là passait par l'huile d'onction, le revêtement du vêtement et le sang pour la purification des péchés. Puis ceux qui ne savent pas, mais dans ce temps-là, quand ils offraient un sacrifice, l'animal était vivant, il était présenté à Dieu, il y a là, c'est un bœuf, il amène le taureau. Fait qu'imaginez-vous, Aaron, il a mis sa main sur sa tête au taureau. Les fils d'Aaron ont mis toute leur tête sur le taureau. Ça avait comme symbole qu'ils transféraient le péché sur le taureau. Puis là, après ça, ils prenaient un couteau, puis ils l'égorgeaient le taureau, puis ils versaient son sang. Fait que là, le péché était transféré sur le taureau, puis en tuant le taureau, le taureau mourait à la place qu'eux autres meurent pour leur péché. C'était le taureau qui payait. C'était ça, un sacrifice. Fallait que quelqu'un paye de sa vie pour un remplacement pour payer pour tes péchés. Toi, au lieu que ce soit toi qui meurs, tu présentes un taureau, puis c'est le taureau qui mourra à ta place. Puis tout ça, là, ça avait une image, un symbole quasiment 100% au même traitement que Dieu a fait à Jésus pour prendre les péchés de l'humanité. On va le voir un peu plus loin. On va voir un autre verset qui parle des vêtements. Là, c'est Exode 29-29. Il dit, « Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils qui les mettront lorsqu'on les oignera et qu'on les consacrera. » Fait qu'il y avait une lignée de sacrificateurs, mais dans leur tradition, ils gardaient les vêtements pour qu'ils puissent se consacrer. Puis ces vêtements-là étaient transmis à leurs enfants, puis les enfants étaient pour les retransmettre à d'autres, puis ainsi de suite. Puis ça faisait partie que si tu voulais être consacré, il fallait que tu sois un membre de cette famille-là, que tu passes par l'onction d'huile pour la sanctification, il fallait que tu passes par de mettre ce vêtement spécifique-là, puis il fallait que tu passes aussi par un sacrifice sanglant pour payer pour la dette de tes péchés. Nous aussi, dans la Nouvelle Alliance, on a été consacrés par du sang et une onction, et nous avons tous été revêtus d'un vêtement. Afin d'entrer puis de servir dans notre nouveau rôle sur cette terre, celui de sacrificateur de la Nouvelle Alliance. C'est là qu'on revient avec le passage qu'on a lu au début, Apocalypse 1:5. À celui qui nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. On est rendu qu'on est des sacrificateurs, on a passé par le sang nous aussi, c'est le sang de Jésus qui était versé pour payer pour nos péchés. C'est à lui que soit la gloire, la puissance au siècle des siècles.
Amen.
Jamais on n'aurait pu accéder à ce rôle-là, à ce titre-là d'être un sacrificateur de Dieu, ni même entrer dans le royaume sans passer par les trois choses qu'on va voir, la même chose que le sacrificateur. Si on voit que le sang, on vient de retrouver que dans ce verset-là, que le sang est un des trois éléments que le sacrificateur est à consacrer. Dans Jean 3:3, on va voir aussi qu'il fallait avoir une touche de l'onction d'huile. Puis qu'est-ce que ça représente? Puis tout le monde le sait que, en sens figuré, l'huile représente le Saint-Esprit. Ça fait que Jésus lui répondit. Jésus, il parle à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il a dit, faites de nous un royaume des sacrificateurs. Mais Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas le voir. Si quelqu'un dit, moi je veux le voir, le royaume de Dieu, je veux le voir, ce nouveau royaume-là, faut que tu naisses de nouveau. Tu ne peux pas le voir, le royaume, si tu n'es pas né de nouveau. Nicodème lui dit, comment qu'un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il retourner dans le sein de sa mère et comme renaître? Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Ce qui est né de la chair, c'est chair. Mais ce qui est né de l'esprit, il est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas où il s'en va, il y en est. Ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Si tu veux voir le royaume, si tu veux entrer dans le royaume, fais partie de ce nouveau royaume, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, faut que tu passes, premièrement, par le sang de Jésus, qui est le sang pour que tu mettes tes culpabilités, tes fautes, tes péchés, tes maladies, tu mets ça sur Jésus, puis tu crois que c'est Jésus qui a versé son sang, qui est l'agneau de Dieu venu pour enlever le péché du monde. Tu passes par le sang, tu passes aussi en même temps par la nouvelle naissance, de naître de l'Esprit. C'est l'onction dans l'Ancien Testament. L'onction d'huile était le fait qu'on ait tous été scellés du Saint-Esprit. Quand tu arrives à Jésus, il met un sceau sur toi comme quoi que tu appartiens à Dieu. Tu es rendu une propriété privée de Dieu. Quand il t'a racheté, là, il te pardonne. Avant que tu reçoives le pardon, tu ne pouvais pas changer de camp. Tu étais sous la domination des ténèbres. Fallait premièrement que la dette des péchés soit réglée. Jésus a payé le prix. La dette des péchés est réglée. Tu crois que c'est Jésus qui t'a pardonné? Tes yeux se rouvrent. Tu demandes le Saint-Esprit. Il rentre dans toi. Tu nais de l'Esprit. Tu t'es rendu une nouvelle créature. Là, tu peux le voir, le royaume de Dieu. Ça ne vient pas te frapper les regards. Le royaume de Dieu ne vient pas comme frapper les regards. Il est au milieu de vous. Fait qu'il y a des gens qui se promènent dans ce monde-là. Ils font partie du royaume de Dieu, tandis que d'autres ne le font pas partie, puis ça se voit pas à l'œil, ça se voit quand tu es né de nouveau. Tu vois lesquels qui sont les vrais qui font partie du royaume, puis lesquels qui ne font pas partie du royaume. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent et qui disent toutes sortes de choses à propos de Dieu, sont bien religieux, mais s'ils n'ont pas passé par croire au sacrifice de Jésus et de recevoir la nouvelle naissance, ils ne font pas encore partie du royaume, puis ils ne peuvent même pas le voir. Ils peuvent parler de Dieu, ils peuvent réciter des versets, mais il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu sois né de l'Esprit. Ça se fait quand tu passes par la repentance. Parce que Pierre, quand il a prêché la parole aux gens, il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ, pardon de péché, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Passez par la repentance en premier, puis tu reçois le Saint-Esprit en deuxième. Si tu ne passes pas par la purification en Jésus, tu ne peux pas. Si tu penses que ce n'est pas Jésus qui te sauve, si tu penses qu'il y a d'autres moyens, ou tu penses que c'est ta performance qui va t'amener, parce que je suis rendu une meilleure personne, que je vais être sauvé, tu es dans le champ. Il faut que tu croies que c'est Jésus qui a payé le prix. Il est le taureau présenté puis que le sang a été égorgé. Il est l'agneau de Dieu qui enlève. C'est Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que par notre foi en Jésus. Tu passes par là, tu commences, tes yeux se rouvrent, là tu peux voir le royaume. Le Saint-Esprit t'amène à le voir et à comprendre c'est quoi le royaume. Il t'enseigne la vérité, il transforme ta vie de plus en plus. C'est juste le résultat de ce que tu es né de nouveau. Tu n'as aucun mérite là-dedans. Puis dans Galates 3, 27, il y a un verset qui a comme une vérité là-dedans. Dans deux versets que je vois là, il y a deux parties de la vérité du revêtement qu'on a été revêtu. Dans Galates 3, 27, ça dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Ça veut dire qu'au moment où tu t'es converti, il fallait qu'il se porte. Ben, je vais lire l'autre passage aussi, puis je vais vous expliquer les deux vérités. L'autre, c'est Éphésiens 6, 11. Non, attendez. En réalité, l'autre, c'est encore un revêtement, mais c'est pour le combat. Mais restez dans ce verset-là, je vais vous expliquer une vérité. On a tous, quand on s'est converti à Jésus, été nés de l'Esprit. Puis à ce moment-là, là, la Bible a dit, on était baptisés en Christ. C'est pas le baptême d'eau. Et vous serez baptisés, là, il dit, dans le nom de Jésus. Oui. Il y a deux aspects dans ça. Il y a l'aspect que quand tu es chrétien, tu es comme mort. Au moment où tu as accepté Jésus, t'es pardonné, il donne le Saint-Esprit, et ta personne qui est encore vivante, là, physiquement, aux yeux de Dieu, t'es rendu enseveli avec Jésus. T'es comme si t'es déclaré que t'es un mort. À ce moment-là, t'es plus régi par les lois spirituelles de l'Ancien Testament, qui est les actes de la loi de Moïse. Tu as été crucifié avec Christ, puis si tu vis, c'est plus toi qui Christ, c'est Christ qui vit. C'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. La Bible a dit, quand que Jésus a expié pas juste nos péchés, il a aussi cloué l'acte qui nous condamnait. Il fallait que tu sois libéré de la condamnation que la loi t'amenait. Il t'a affranchi de ce que la loi te condamnait. Il est devenu malédiction pour nous, pour que nous puissions sortir de notre malédiction. Fait que tout ça, là, dans d'autres mots, vous avez été baptisés en Christ. Il y a plein de versets qu'on aurait pu sortir, mais c'était pas le but. Vous avez revêtu Christ. Ça sous-entend deux choses. Tu as été enseveli et tu es mort. Et en même temps, tu es revêtu du vêtement de la justice de Jésus. Quand que Dieu te regarde, il ne voit plus ce que tu es. Il voit Jésus toi. Puis il dit dans Et nous tous, nous prêchons parmi les parfaits. Et l'autre passage qui dit que c'est nous les saints, pas parce qu'on a une meilleure conduite que d'autres, c'est en position qu'on est rendu saint. Notre position devant Dieu, on est rendu des saints, des consacrés, des parfaits. Pas parce qu'on est plus parfait, parce qu'on est revêtu de la perfection de Jésus. Quand Dieu le Père nous regarde, il voit Jésus, il voit le pardon de nos péchés, il voit le sceau du Saint-Esprit qui est sur nous, il voit notre vêtement de justice qui vient de l'œuvre de Jésus, qui est la justice de Jésus qui nous recouvre. Vous avez reçu un vêtement spécial au moment de votre conversion. Autrement dit, il n'y a rien de ce que vous auriez pu faire aura pu vous donner accès à rentrer dans le royaume des nouveaux sacrificateurs du Nouveau Testament. Il fallait que Jésus fasse tout ce qui était nécessaire pour que ça puisse avoir la purification, l'année de l'Esprit et la justice de Christ qui te revêt.
Ce qui est fait d'une certaine façon, que c'est nécessaire lors de la repentance, c'est la sincérité.
Bon, mais ça, c'est sûr, c'est les hypocrites. C'est sûr, si on n'est pas sincère...
Répéter des formules ou des prières après les autres sans être sincère...
Ça n'a pas d'effet. Non, quand la vraie repentance, là, quand tu parles de repentance, c'est vraiment un cœur repentant. Faut que tu le regrettes, ce que t'es devant Dieu. Ta position devant Dieu, c'est t'es un pécheur, carré, la colère de Dieu sur toi à cause d'Adam et Ève, puis toutes les conséquences d'Adam et Ève, plus tes propres péchés. Notre justice est comme un vêtement souillé. Fait que si t'as pas un once de repentance, ça veut dire que t'as pas l'intention de demander pardon pour ce que t'es devant lui, puis t'as pas l'intention à vouloir devenir autre chose en prenant ce qui t'est proposé par Jésus, c'est sûr qu'il n'y a pas une réelle repentance. Jean-Baptiste prêchait cette idée-là. Repentez-vous, puis il disait, produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est beau de le dire en parole, mais il faut que ta vie, il sorte quelque chose qui démontre. Puis ça, c'est sûr que le Saint-Esprit, quand tu nais de nouveau, parce que, mettons, une personne a dit, moi, là, je suis pas capable par moi-même, je le sais que c'est Jésus qui a tout payé, puis je veux embarquer dans cette nouvelle vie-là. C'était réellement cette pensée-là. Tu vas changer. C'est le Saint-Esprit qui va te changer. Il va t'amener à vivre cette nouvelle vie-là. Tu vas être en contact avec. Tu vas être revêtu de sa justice. Puis le sang de Jésus, son Fils, te purifie de tout péché. Ça ne veut pas dire que tu n'en commettras pas d'autres péchés. Tu vas en commettre d'autres. Mais tu marches dans la foi. Puis en marchant dans la foi, tu confesses encore tes autres péchés que tu fais. Puis à mesure, Dieu te pardonne. Il y a comme une nouvelle relation, c'est des nouveaux privilèges qu'on a en Jésus de pouvoir être pardonné à mesure. À cause qu'on demeure dans la foi en ce qu'il est puis en ce qu'il a fait. Ça nous a été donné gratis. Puis ça s'adressait à qui? Pas juste à la famille d'Aaron. À tous ceux, il dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, puis en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est encore une réponse à un appel que le Saint-Esprit va faire. C'est un appel, il a appelé la famille d'Aaron, il appelle encore des gens présentement, viens, viens boire. Dieu y a fait avec nous une alliance éternelle. Et il nous donne lui-même une formation pour le service qu'il nous appelle. Parce que là, on vient d'apprendre que c'est vrai, je me suis converti, si on le savait qu'on est pardonné, on le sait qu'on a le Saint-Esprit, on le sait qu'on est revêtu de la justice de Jésus, on le sait. Mais est-ce qu'on savait qu'on était devenu des sacrificateurs? Des fois, on ne le sait pas, puis là, c'est pour ça qu'on en parle le matin. Il faut réaliser qu'on a une position devant Dieu de sacrificateur. Puis le Saint-Esprit, Dieu lui-même, veut nous donner tout ce qu'on a besoin pour entrer dans ce nouveau service-là.
La position qui parle de la position à nous autres, présentement, dans Éphésiens chapitre 1, il explique très bien, là, à partir du verset 23, en Jésus-Christ, nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables de parler devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, encore un privilège, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer sa gloire. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon sa richesse, sa grâce. En tout cas, ça continue.
On voit que ça prend forme, c'est la même idée, tout le temps c'est basé sur Jésus, sur son sang, sur son œuvre, sur ses actions. Tout est centré là-dessus, puis 2000 ans après, on fait encore la Sainte Cène ensemble, on se partage le pain et le vin, toujours pour se commémorer que c'est grâce à l'œuvre de Jésus qu'on a tout. Gloire à Dieu! Puis merci qu'on puisse être conscient de ça. Dieu nous a appelés. Vous sentez-vous des appelés ce matin? Sentez-vous que vous avez été appelés de Dieu? Le sentez-vous que vous... Le savez-vous que Dieu a commencé quelque chose en vous puis il va la rendre parfaite? Puis il y a un plan? Là, je t'ai rendu que Dieu a fait avec nous une alliance éternelle puis il nous donne lui-même une formation pour le service. On va regarder Hébreux 13, 20, 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, c'est qui ça le grand pasteur des brebis? C'est Jésus. Par quoi? Par quoi? Par le sang d'une alliance éternelle. L'alliance est à point qu'une alliance de 10 minutes. C'est une alliance éternelle. C'est notre Seigneur, Jésus, qui vous rend... Il dit qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Voyez-vous, il y a deux choses. Il faut que ce soit Jésus ou Dieu qui vous rende capable, puis que ce soit lui qui fasse l'accomplissement de sa volonté. Le Saint-Esprit se propose de nous conduire dans notre nouveau chemin selon l'appel qu'il a mis en nous. C'est-tu pas beau? Notre rôle de sacrificateur, là, quand on le comprend, qu'on est introduit dans un rôle de sacrificateur là, dans la Nouvelle Alliance, c'est un rôle d'intermédiaire et d'intercesseur entre Dieu et les autres qui nous entourent. La même chose que les sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance. On a un rôle d'intermédiaire. On est entre les hommes et Dieu. On a un rôle d'intercesseur. Ça veut dire que dans d'autres mots, là, Dieu, quand on a dit tantôt, le Saint-Esprit et l'épouse disent viens. Fait que le Saint-Esprit, il agit puis il travaille ses cœurs, mais il utilise aussi son Église, l'épouse, pour dire aux gens viens. Fait qu'on a un rôle, veut pas, entre Dieu et les gens qui nous entourent. On a un rôle d'intermédiaire, puis on est un rôle d'intercéder pour eux. Pour les gens qui ne connaissent pas encore Dieu. On est comme dans le job d'un sacrificateur. Puis pour être un sacrificateur, il faut quand même avoir une offrande à offrir à Dieu. Parce que les sacrificateurs, continuellement, ils représentaient un nouvel animal qui versait le sang. Puis pour être un sacrificateur, il faut quand même avoir une offrande à offrir à Dieu. Puis toutes nos prières et nos interventions se font à travers du sacrifice dans le nom de Jésus. Dans l'ancien temps, il fallait qu'il répète les sacrifices sans arrêt, tandis que Jésus s'est livré une seule fois, il a versé son sang une seule fois, et toutes nos interventions se font tout le temps à travers du nom de Jésus, qui est l'agneau qui a payé une seule fois pour toutes nos interventions. Toutes nos prières, toutes nos actions doivent être faites dans le nom de Jésus. Il y a un verset qui appuie cette idée-là. Dans Colossiens 3, 17, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est clair? S'il y a une efficacité dans le rôle d'un sacrificateur, c'est en présentant une offrande qui fait que, parce que dans l'Ancien Testament, là, la personne veut être pardonnée. Elle présente l'offrande. Puis l'offrande, quand elle est agréée de Dieu, là, le gars pouvait retenir le pardon. Fait que nous autres, on se tient pas à la même image. On s'approche de Dieu pour prier pour nos besoins ou ceux des autres. On demande de quoi? Dans le nom de l'offrande qui est Jésus, c'est son sang à lui qui est l'offrande. Puis à cause du mérite de cette offrande-là, on reçoit nous aussi nos exaucements, nos pardons, puis notre secours qu'on a de besoin. Tout ce qu'on fait, faut que ça soit fait dans le nom de Jésus. Puis présenté à cause du sang de Jésus, c'est lui qui est le sang à offrir à Dieu pour obtenir toute chose. Toutes ces promesses dans la Bible sont oui, amen, à cause que Jésus a payé pour qu'on puisse les avoir. On ne pourra jamais mériter quoi que ce soit comme exaucement de prière par notre propre justice ou par notre propre sainteté ou par nos propres mérites. C'est tout ce qu'on fait. Il faut trop focusser là. Je vais envoyer évangéliser quelqu'un là, au Seigneur. Je te demande, dans le nom de Jésus, de mettre ta main pour que je puisse y parler, puis que la personne soit touchée, puis que la personne accepte Jésus. C'est toujours dans le nom de Jésus. Puis s'il y a un exaucement, c'est à cause que Jésus était là-dedans. Sinon, par vos forces, c'est pas fort. Nous pouvons compter sur l'aide du Saint-Esprit pour notre nouveau ministère. Vous êtes tous des sacrificateurs aujourd'hui, mais pensez pas encore d'y aller par votre force. Dans le verset Romains 8, 26, ça dit, même quand tu ne sais pas quoi dire dans tes prières, tu es en train de prier, hein, tu ne sais pas quoi dire, tu n'as pas un mot par toi-même, tu n'as pas la capacité de prier. Ben, le Saint-Esprit, il va te diriger à intercéder, à faire des prières qui sont selon le plan de Dieu, par des soupirs inexprimables. C'est le Saint-Esprit qui va faire l'œuvre à travers de toi et te présenter requête pour l'autre, puis Dieu va exaucer, à cause que c'est... Ce n'est pas encore ta capacité, c'est Dieu qui va te conduire à ce nouveau rôle-là d'intercesseur. Oui, puis là tu vas prier dans le nom de Jésus pour cette personne-là pour que les choses se fassent. Puis là, à cause des mérites de Jésus, tu vas être exaucé, puis là, les choses vont se faire. C'est ça.
Dans l'Ancien Testament, Aaron symbolise Jésus-Christ, puis ses fils représentent les croyants aujourd'hui dans l'Église.
Est-ce que dans Aaron... Oui, parce que ça, c'est un point que je n'ai pas parlé, mais il était un souverain sacrificateur. Il y avait un souverain sacrificateur, puis il y avait les sacrificateurs. Autrement dit, le chef des sacrificateurs, au début, c'était Aaron, mais même quand Aaron était décédé, ils ont toujours établi un souverain sacrificateur qui n'avait un seul, puis lui, une seule fois par année, il allait présenter l'offrande dans le lieu très saint, pour le pardon de ses propres péchés, puis les pardons des péchés de tout le reste du peuple. Fait que c'était le souverain sacrificateur qui parlait au nom de tout le peuple en même temps. Puis maintenant, dans la Nouvelle Alliance, on nous dit que c'est Jésus qui est le nouveau souverain sacrificateur de la Nouvelle Alliance qui a établi en son sang, puis il est monté s'asseoir à la droite de Dieu, puis là, il intercède pour nous. Parce qu'il est encore vivant pour le faire, parce qu'il est ressuscité. Pour continuer à finir ça comme une histoire un petit peu plus rapide, même pour nous, nos interventions, nous comptons sur le Saint-Esprit pour les faire. Que ce soit pour parler, dans Matthieu 10, 19, il dit, quand vous allez être livrés, inquiétez-vous pas de ce que vous allez dire, c'est le Saint-Esprit qui parlera à travers de vous. Quand c'est le temps d'agir, 1 Corinthiens 12, 7, ça dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Tu es dans l'Église, faut que tu laisses le Saint-Esprit agir pour parler au peuple, pour donner des manifestations de sa présence, puis pour que les signes et les miracles, les prodiges, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les prophéties, le discernement des esprits, le don des langues, puis son interprétation, que ça soit tout fait par le Saint-Esprit à travers de nous. On va penser qu'on est un sacrificateur, puis on a la charge ou le fardeau d'être des gens capables de faire quoi que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui va nous amener à le faire. Il y a d'autres moyens, d'autres places que Paul y a prêché, dans 1 Corinthiens 2, au verset 4. Puis il dit, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Même dans l'Église, si on veut voir l'Église grandir et s'accroître, qu'on veut que ce royaume-là devienne un royaume de gens consacrés, faut-tu t'attendre à laisser passer le Saint-Esprit à travers de ta vie pour rencontrer les gens. Sinon, sans l'action du Saint-Esprit, ça va être un club social. Parce que, faut le dire, il y a des églises qui ont fermé la porte au Saint-Esprit, puis ils veulent pas que le Saint-Esprit se manifeste, ça devient un club social. Quand on voit dans, une des sept églises que Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe, puis celui qui entend, qui rouvre, j'entrerai. » Jésus, dans ce verset-là, est en train de frapper à la porte d'une église qui avait été mis dehors de son église, puis il frappait à la porte pour pouvoir rentrer, puis là, c'est un appel individuel qui va répondre. Il dit que celui qui entend, ouvre, puis j'entrerai chez lui. Ça ne dit pas qu'il était pour se réinstaller dans cette église-là. À quelque part, il y a tout, c'est une relation personnelle et individuelle que chacun de nous, on a avec Jésus. Quand tu rentres en contact avec, tu marches avec lui, puis tu le laisses agir à travers ta vie pour que ce soit toute la gloire lui revienne. Tout ce que tu fais, c'est dans le nom de Jésus. Puis on va voir la main de Dieu agir, c'est clair. Si on a toute cette attitude-là de laisser le Saint-Esprit agir puis de s'attendre à ce qu'il se manifeste dans nos réunions, il est là, il nous parle, il travaille nos cœurs, il nous saisit, il nous amène à repentance, il nous, tu sais, il fait un œuvre, puis il y a du monde qui va rentrer ici, ils vont être touchés, puis ils vont vouloir en savoir plus de ce que Dieu a à dire, puis ils vont grandir dans le Seigneur, puis ils vont être à leur tour des intercesseurs pour travailler, intercéder en présentant le sang, puis ainsi de suite, puis la gloire va revenir à qui?
À Dieu.
Un dernier passage pour clore l'idée. Toute la gloire de ce ministère revient à une seule personne. À celui qui nous a rachetés. Il nous donne en bonus, pour l'avenir, une promesse de vie sans fin et une position de royauté sur la terre. Ça, il y a un dernier verset qu'on va aller lire, Apocalypse 5, verset 9. Ça parle encore dans ce verset-là qu'on est des sacrificateurs. Ça parle de la promesse. La promesse qu'on va devenir des rois et des seigneurs. On va régner avec Jésus parce qu'on fait partie de son royaume, qu'on est des sacrificateurs. Dans cette vision-là, il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » C'est encore Jésus dont on parle dans ce passage-là. « Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » On a-tu commencé à régner? Non. Il y a un jour où ce que les croyants, ceux qui font partie du royaume, ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus, ça fait partie des gens de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation sur la terre. Il y en a de toute la gang, au moins un exemplaire de chaque, qui vont entrer dans le royaume, qui vont être des sacrificateurs de Dieu pendant le temps présent. Et à la fin, Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Il y a un autre verset qui dit « Heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. » Quand tu parles dans le sens du débonnaire, dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui s'est dépouillé, qui ne se considéra pas un grand, un riche, un pauvre. C'est un gars qui donne. Tu fais partie des croyants, tu vas l'hériter, la terre. Il faut penser qu'un jour, ce que Jésus-Christ va prendre possession de cette terre, puis il va établir ses sacrificateurs dans une royauté pendant un règne de 1000 ans. On va régner avec Christ pendant les 1000 ans, ça dit. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Il y a une résurrection qui s'en vient au retour de Jésus-Christ. Les morts en Christ ressusciteront, puis nous, les vivants, serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées pour être ainsi toujours avec le Seigneur, puis ça dit qu'il va établir son règne sur la terre, puis on va régner avec lui pendant les 1000 ans. C'est ça le résultat ou les bénédictions promises d'être avec lui toujours et de régner avec lui sur cette terre. Puis là, j'en laisse passer parce qu'il y en a d'autres promesses pour les temps éternels. Comment est-ce qu'il y en a de gens parmi nous qui se disent « Ah, ben moi, là, à matin, je viens de capter quelque chose. » Je viens de saisir quelque chose, puis je veux devenir un sacrificateur. Je veux devenir une personne qui passe par le sang, qui passe par le Saint-Esprit, puis qui passe par le revêtement de la justice, puis qui me donne d'être mort à moi-même, puis de revêtir Christ pour ma justice. Y en a-tu qui veulent vivre cette nouvelle vie-là qui est en Jésus? On va faire un appel. Pendant que les musiciens s'avancent en avant, laissez pas passer l'occasion. Quand tu es né de l'Esprit, là, tu le sens dans tout et que tu es avec le Seigneur, que tu es avec le Saint-Esprit. Si tu sens pas sa paix, sa joie, si tu sens pas la communion que tu as avec, si tu sens pas sa puissance, si tu n'as pas l'impression qu'il est là, ça se peut que tu n'aies pas encore entré dans le royaume. Puis il est temps que tu fasses que tu prennes position pour Jésus. Que tu t'avances et que tu le confesses de ta bouche devant les hommes, que tu crois que c'est lui qui est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, puis que tu crois qu'il veut aujourd'hui même te pardonner, te purifier, te revêtir de son Saint-Esprit, puis il veut faire de toi une nouvelle créature. Il veut te faire entrer dans le royaume de Dieu. Pendant qu'on va chanter le chant, avancez-vous pour on va prier ensemble.